Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Niabali. Bonsoir.
Bonsoir.
Mohamed Niabali, après des menaces de mort et des croix gammées sur votre portail, vous avez reçu le soutien de nombreux habitants et d'élus de toute l'Île-de-France. Est-ce qu'on peut revenir sur ces menaces? Avant vous, d'autres maires ont été la cible de messages de haine. Je pense au maire de Stein notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé?
Alors écoutez, ça s'est passé mardi dernier, comme à mon habitude avec mon épouse, je préparais mes trois enfants pour les emmener à l'école. Et j'ai été interpellé par des voisins qui m'ont demandé de sortir à l'extérieur de ma maison et ils m'ont dit qu'il y avait des croix gammées, des menaces de mort sur mon portail. Je suis sorti avec mon épouse et on a vu cet acte. Et naturellement, ce qu'on a fait, c'est d'ouvrir le portail pour cacher les inscriptions pour permettre avant tout aux enfants d'aller à l'école sereinement. Et ensuite, j'ai appelé la police et la préfecture qui sont venus très rapidement sur site pour constater les faits et essayer de prendre les empreintes.
Alors, vous avez porté plainte, vous avez bon espoir que le ou les auteurs de ces menaces soient identifiés et traduits en justice?
Alors oui, j'ai porté plainte le jour même, naturellement. J'espère qu'ils seront retrouvés. Je pense que c'est un message important à la fois pour l'île Saint-Denis, mais également pour la République, que ce type d'acte soit résolu et sanctionné pour vraiment faire des exemples sur le respect des autorités, des institutions et des élus.
Comment expliquez-vous que de plus en plus d'élus locaux soient, comme vous, la cible de messages de haine ou de messages racistes, Mohamed Niabali?
Alors, moi, je constate déjà plusieurs choses. On vit une période assez particulière. On est dans un contexte local comme mondial qui est très, très compliqué entre l'accumulation des crises sociales, sociétales, économiques, environnementales, identitaires, etc. On ressent quand même beaucoup de peur, de crainte, de désespoir et parfois de la haine chez certains de nos concitoyens. Et des fois, ça peut déraper. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le maire, c'est souvent le premier recours quand il y a un sujet et le dernier espoir pour beaucoup de personnes. Et donc, naturellement, on est très exposé sur les tensions sociales et les tensions humaines des habitantes et des habitants. Et ça peut, par moments, dégénérer. Et en fait, s'accumuler avec la crise des institutions, la crise de conscience du politique, ça aide pas, où la parole du maire est souvent remise en question, comme la parole en général du politique, et un sentiment d'impunité sur, on peut dire tout et n'importe quoi à l'autorité, à l'institution, on ne risque pas grand-chose. Et le cumul de tout ça peut créer ce type d'acte totalement innommable qui génère une escalade de violence.
Un acte qui intervient aussi au moment où se déchaînent des messages de haine sur les réseaux sociaux. Il y a parfois aussi des prises de parole de personnalités sur des chaînes de télévision qui peuvent inciter aussi à la violence.
Alors, je suis très clair sur le sujet, à tous les niveaux, que ce soit des personnalités politiques, médiatiques, publiques, etc. Il y a une participation collective à cette escalade de la violence. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand on est élu, on doit avoir de la retenue. Et on doit peser ses mots. Et un maire, c'est quelqu'un qui construit du vivre ensemble, qui est garant du vivre ensemble, qui est garant du lien social et de la cohésion sociale. On ne peut pas avoir des postures clivantes qui amènent les gens à être les uns contre les autres et pas les uns avec les autres. Et donc oui, effectivement, je suis en colère justement sur cette question-là qui est quand on est une personnalité publique, on a un rôle de construire le lien social, de construire le vivre ensemble et pas de créer cette opposition entre les Français.
Mohamed Niabali, comme le maire de Stein, Azdin Taibi, vous avez reçu un soutien très ferme d'élus d'Île-de-France. J'ai vu les photos de ce rassemblement. On pouvait reconnaître le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. Il y avait de nombreuses personnalités qui sont venues à l'Île-Saint-Denis vous apporter un soutien moral, affectif. Cette solidarité dans ces circonstances, elle est nécessaire, elle est précieuse.
Alors, elle dépasse l'Île-de-France. Moi, je suis vice-président des maires de France, donc j'ai eu un soutien de François Baron, qui est le président de l'Association des maires de France, de André Lagnel, qui est le premier vice-président, mais également de plusieurs maires ruraux comme urbains, d'énormément de maires d'Île-de-France. Ensuite, il y a eu des appels de plusieurs ministres et du Premier ministre également. Et en fait, il y a une chose qui est relativement claire, c'est que tout le monde a été à la fois choqué par ce qui s'est passé, mais le message qui est passé dans tous les appels que j'ai reçus, c'est « il faut faire quelque chose ». Il faut faire quelque chose parce que ce genre d'acte ne peut pas rester sous silence. Il faut absolument montrer que ce qui a été touché, ce n'est pas qu'un homme, ce n'est pas qu'une ville, c'est la République, ce sont tous les élus de la République. Et en fait, cette mobilisation, elle a été portée par ma majorité municipale, mais avant tout par de nombreux élus de partout qui étaient plutôt dans une position qui est de dire « on est en période de Covid, c'est vital ». On doit protéger les gens, mais protéger le vivre ensemble, c'est aussi vital. Et donc, du coup, ce rassemblement, moi, je le prends plutôt comme une mobilisation pour affirmer la République et affirmer le rôle des élus dans cette République, qui est de construire le vivre ensemble, d'être au service des gens, et pas d'être en opposition avec les gens.
Mohamed Niabali, vous êtes le maire de l'Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. J'aimerais qu'on évoque la crise sanitaire. Le président Macron s'exprimera mardi soir à 20h pour donner des informations sur le nouveau protocole sanitaire et les conditions de la sortie du confinement. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ?
J'attends du chef de l'État de la visibilité, de la lisibilité. Moi, aujourd'hui, ce que j'analyse de la communication du gouvernement, c'est qu'elle n'est pas assez claire. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est nous gérons une crise sanitaire exceptionnelle, nous avons peu de connaissances du sujet, mais il y a des choses qui sont quand même assez claires et qu'on peut dire clairement. Exemple sur le fait que avant la fin de l'année, la situation ne va pas s'arranger et qu'il faut laisser certains commerces fermés comme les restaurants ou qu'il faut maintenir le confinement jusqu'au fait. Je pense qu'on a besoin de plus de clarté du gouvernement et pas de ce show médiatique toutes les deux semaines pour nous faire des petites annonces, voire aucune annonce. J'ai vu la dernière conférence de presse du ministre de la Santé où très clairement on attend le président, quoi.
Dans votre ville, quelles mesures avez-vous prises dans le cadre de cette crise sanitaire ? Je pense aux distributions de masques, à l'action en direction des personnes âgées, au commerce.
Alors, c'est aussi l'un des sujets qu'on a remonté au gouvernement. Les maires en ont première ligne et on est 36 000 communes. Donc, l'État a une force de frappe avec les maires qu'elle n'a pas su mobiliser au début de la crise. La plupart des maires et l'Île-Saint-Denis y compris, on n'a pas attendu le gouvernement pour gérer la crise et notamment sur la question des masques et sur la question du dépistage. C'est des sujets qu'on a pris à bras le corps dès le début de la crise. Et exemple, moi à l'Île-Saint-Denis, on a lancé un appel au bénévolat pour réaliser des masques et l'ensemble, les premiers masques qui ont été distribués à l'Île-Saint-Denis, c'est des masques qui ont été réalisés par des habitants de l'Île-Saint-Denis. On a réussi à réaliser 8000 masques qui correspondent aux 4000 ménages habitant l'Île-Saint-Denis.
Alors, le Secours catholique a annoncé un chiffre terrible, 10 millions de pauvres en France. La pauvreté a augmenté en raison de la crise sanitaire. Vous observez ce phénomène dans votre ville de 8000 habitants ?
Alors, totalement. J'ai, en trois mois, sur le premier confinement, j'ai doublé mes aides alimentaires par rapport à toute l'année 2019. Donc c'est juste énorme, mais on a dû abonder massivement nos aides au centre social, centre d'action sociale communale, et à côté de ça, on a développé aussi l'aide aux associations pour tout ce qui était aide alimentaire, portage de repas pour les personnes âgées isolées, etc. Et aussi on a une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi ou de demandeurs de logement. Il y a aussi la suroccupation de logement qui a créé énormément de tensions dans certains de nos quartiers et qui renvoie à d'autres sujets. L'île Saint-Denis, c'est déjà une ville qui a des problématiques de pauvreté, des problématiques sociales importantes. Et la crise, elle a mis en relief toutes nos problématiques, elle les a accentuées. Et c'est aussi ça que nous remontons comme difficulté.
Mohamed Niabali, une centaine de maires interpellent Emmanuel Macron sur la situation des banlieues. Ils évoquent les difficultés dans les quartiers populaires en raison de cette crise sanitaire. Ils souhaitent que 1% du plan de relance soit sanctuarisé pour ces territoires. Les banlieues sont les grandes oubliées de ce plan de relance ?
Je ne pense pas qu'ils sont les grands oubliés. Je pense qu'on a une politique macroéconomique pour permettre à la France de résister à cette crise sanitaire, sociale et économique. Mais je pense que les banlieues sont structurellement sous-dotées sur les compétences régaliennes de l'État et que ce plan est pour nous un premier geste important pour juste stabiliser les choses. Pour le dire autrement, avant la crise, on avait déjà un sujet d'inégalité territoriale dans nos quartiers populaires, et on nous renvoyait à la politique de la ville ou à l'ANRU. Et cette crise, elle a montré que c'est pire que ce que nous pensions. On peut regarder les chiffres, les statistiques du nombre de morts dans les quartiers populaires, qui est beaucoup plus important que dans les zones rurales ou dans les métropoles. Et donc du coup, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que 1% c'est juste le début d'un rattrapage que nous attendons depuis longtemps.
Mohamed Niabali, le 9 décembre sera présentée en Conseil des ministres la loi sur le séparatisme, une loi qui a changé de nom, elle s'appelle désormais projet de loi confortant les principes républicains, destiné à lutter contre l'islam radical et les séparatismes. Le texte comprend des dispositions contre la haine en ligne qui ont été ajoutées après l'assassinat de Samuel Paty. Ce projet de loi vous paraît-il nécessaire aujourd'hui ?
Alors, conforter tout ce qui protège le vivre ensemble me paraît bien, c'est-à-dire tout ce qui permet de sanctionner la haine et l'obscurantisme et le radicalisme et toute autre chose. Mais ce qui m'interpelle, c'est la philosophie de la loi. Quand on a appelé une loi séparatisme, c'est à l'opposé de ce qu'on doit protéger. Ce qu'on doit protéger, c'est le vivre ensemble. Et donc du coup, ce que j'ai tendance à dire et ce que j'attends de la République en tant qu'élu et en tant que citoyen, c'est des lois qui protègent tous les Français et qui leur permettent de vivre ensemble.
Le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, votre ville a-t-elle mis en place des actions pour protéger les femmes des violences conjugales ? Je rappelle que le Grenelle contre les violences conjugales a eu lieu il y a exactement un an.
Ma ville est très sensible à ces questions-là. J'ai une élue chargée de la question et une maire adjointe qui porte ces questions depuis très longtemps. Et j'ai une association très, très importante pour la ville qui s'appelle les femmes de Lille qui porte ce débat. Et exemple, une des choses qui m'a interpellé cette semaine dans l'actualité, c'est le questionnement pour la mise en marché du 3919, qui est la ligne dédiée aux femmes victimes de violences. Et donc qui questionne sur notre manière de voir le service public et notre manière d'accompagner les personnes, les femmes victimes de violences.
Mohamed Niabali, l'élection municipale dans votre commune a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil. Le tribunal vous reproche une distribution de chèques solidaires pour des familles dont les enfants n'avaient plus la possibilité d'aller à la cantine ou encore le lancement de travaux dans le stade Robert César. Comment réagissez-vous à cette décision ?
C'est une décision qui nous a beaucoup heurté. Si je reprends les choses, moi, pendant la gestion de crise, j'ai été interrogé à plusieurs reprises sur la date du second tour des élections municipales et je faisais partie des maires qui disaient qu'il fallait attendre 2021 et qu'il fallait nous laisser gérer la crise, gérer le quotidien de nos communes qui ont été bouleversées par cette crise exceptionnelle. Par rapport au chèque solidarité cantine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lille-Saint-Denis, j'ai 85% des enfants qui sont à l'école, qui sont inscrits à la cantine, et que 50% de ces enfants payent moins d'un euro le repas. Ils n'ont pas eu de cantine pendant 2 mois et demi. Et à la fin juin, j'avais que 12% qui étaient revenus à l'école parce qu'on est rentré à l'école très tard à Lille-Saint-Denis. Les chèques solidarité cantine ont été votés au conseil municipal par le requérant lui-même et que l'État, que le tribunal considère que j'ai fait une erreur en les distribuant avant les élections municipales me heurte. Moi, je considère que j'ai fait mon travail de maire et que j'ai priorisé la gestion de la crise sanitaire et qu'on n'achète pas des voies électorales avec des chèques alimentaires en Seine-Saint-Denis.
Vous avez fait appel de cette décision ?
Oui, j'ai fait appel à cette décision. Je passerai au Conseil d'État dans les mois à venir. Donc, si j'essaye un peu, enfin, je vais confiance à la justice, on verra ce que ça donnera au Conseil d'État. Mais pour être très clair, j'ai aucun regret sur ma gestion de crise qui a été claire dès le début, qui était les gens avant l'argent, la gestion de crise sanitaire avant tout. Et si on pouvait déplacer les élections municipales, tant mieux. Et si on ne le pouvait pas, bah, il fallait faire les deux. Et c'est ce qu'on a fait.
Voter à nouveau pour une élection municipale partielle, alors qu'on sait que la mobilisation est très difficile en temps normal, c'est encore plus difficile en période de crise sanitaire, ça vous le redoutez et si jamais le Conseil d'État ne vous suit pas et qu'il faut voter à nouveau ?
Écoutez, en fait, aujourd'hui, on a tellement peu de lisibilité que je ne sais pas trop quoi penser. Aujourd'hui, on a ce débat sur les départementales et les régionales où on ne sait pas du tout s'ils vont être maintenus ou si ça va être reporté. Alors, refaire des municipales, c'est encore autre chose. Donc, j'attends de voir le discours le retour du Conseil d'État pour le voir un peu plus clair et me positionner. Mais ce que je retiens, c'est que dans tous les cas, notre année 2021 va être très très compliquée. La gestion de crise sanitaire ne sera pas finie, on sera encore dedans, et elle sera cumulée à une gestion sociale et économique qui va être exceptionnelle. Donc du coup, ça sera encore la même configuration de gestion, c'est-à-dire gérer une ville, gérer une crise exceptionnelle, gérer des gens en grande fragilité, et si on doit, en plus de cela, gérer de nouvelles élections, ce serait bien dommageable.
Merci Mohamed Niabali. Je rappelle que vous êtes le maire de l'île Saint-Denis. Bonsoir.